الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Donc, nous avons dit, on parle de Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu que Uthman, quand il a appris que Uthman a été tué, certes c'était une fausse information, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé. Il a demandé à tous ses compagnons de donner allégeance pour faire la guerre contre Quraysh, pour venger en quelque sorte le sang de Uthman et ce crime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait que Quraysh a tué Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et donc on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main, et les 1400 compagnons ont chacun posé la main sur la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'engager de combattre jusqu'au bout Quraysh. Et cette allégeance, on l'appelle Bay'atu Ridwan. Bay'atu Ridwan. Et c'est très très important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala commente cet événement-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: Laqad radiya Allahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سيتي سوز ان اربو اي الله سبحانه وتعالى دون سورة الفتح il commente cet engagement que les 1400 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donné. Et Allah dit لقد رضي الله, Allah est satisfait de ceux qui ont donné acte d'allégeance. Et on a dit que les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les 314 compagnons de Badr, ceux qui ont participé à Badr, 314, il faut les 1400 compagnons qui ont participé à ce pacte-là, c'est les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est des gens qu'Allah déclare dans le Coran al-Karim qu'il est satisfait d'eux. C'est pour ça que quand on parle des compagnons, on dit radiyallahu anhum. Pourquoi ? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah est satisfait. Et on a dit que cet événement, Sulh al-Hudaybiyah, c'est quoi la sourate qui vient le commenter ? Ben, c'est sourate al-Fath. D'accord ? Sourate al-Fath. Si vous lisez sourate al-Fath, et vous regardez Esbab al-Nuzul, les causes de révélation, l'Ouahidi, hein, ce livre-là, il est là. Ce livre-là, il retrace les causes de révélation de chaque sourate, parfois même de chaque verset. Et donc, quand vous allez lire sourate al-Fath, pourquoi elle a été révélée ? C'est pour commenter l'événement de Sulh al-Hudaybiyah, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'on dit sourate al-Fath, elle vient commenter Fath Mecca, la conquête de la Mecque. Mais non, avant la conquête de la Mecque, il y avait un autre Fath, une autre conquête, une grande conquête. C'est celle-ci qu'on est en train de vivre. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner. Donc, Quraysh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il a appris que Uthman n'a pas été tué et Uthman est revenu. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné le pacte à tous ses compagnons, à la fin, il prend sa main gauche, il met sa main gauche sur sa main droite, il dit ça, cet engagement, c'est l'engagement de Uthman. C'est l'engagement de Uthman. Et toute cette. Le frère, il me disait la dernière fois, il m'a fait une petite remarque. Quand je parlais de Uthman, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Uthman. Il lui a marié sa fille. Et après la mort de sa femme, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui propose une autre de ses filles. Donc Uthman, il s'est marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les épouses du prophète de Uthman ibn Affan. Après la mort de la première, parce qu'il est interdit en islam de se marier avec deux sœurs au même moment. C'est interdit, d'accord ? Donc, si tu te maries avec une femme, sa sœur est interdite jusqu'à. Peut-être. Cette femme-là meurt, et à ce moment-là, sa sœur devient autorisée. D'accord ? Le divorce, c'était pas. Une divergence. Une divergence. Ça devient compliqué par la suite à gérer. Hein. Très bien. Donc, Uthman, on l'appelle Dhul-Nurayn, l'homme qui a deux lumières. La lumière, c'est-à-dire les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, Quraysh a compris, après le message que Uthman a passé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour la guerre. Il est venu pour faire la Umrah. C'était son seul objectif. Et il a amené avec lui 70 chameaux pour sacrifié. Donc, ils n'avaient aucune raison pour lui interdire cela. Mais Quraysh a considéré que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les musulmans avec 1400 personnes entrent cette année à la Mecque, c'est pour eux une humiliation. Donc, ils ont envoyé un négociateur, ils lui ont donné carte blanche. Ta carte blanche, tu peux faire ce que tu as envie de faire. De exiger ce que tu as envie d'exiger, accepter ce que tu as envie d'accepter, sauf une chose, une ligne rouge. Ils ont dit, cette année, pas de Umrah. Cette année, pas de Umrah. Ça, tu peux négocier tout le reste, mais cette année, ils ne rentreront pas à la Mecque. Et donc ça, c'était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve. Il a raconté son rêve à ses compagnons. Il a rêvé que les musulmans font la Umrah. Et que ils sont venus pour dans cet objectif-là. 1400 personnes.
1400 compagnons
avec les avec l'ihram, avec les chameaux et les bêtes pour sacrifier. Ils sont venus tous pour ça. Quraysh dit niet. Impossible. Cette année, vous ne rentrerez pas à la Mecque. Vous revenez d'où vous êtes venus. Ça, c'était la chose la pire que les musulmans ont dû encaisser par la suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit qui ? Suhayl ibn Amr. Juste quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est leur négociateur, on lui a dit As-Suhayl ibn Amr. As-Suhayl, son nom c'est Sahel. C'est quoi Sahel en arabe ?
Facile.
Suhayl, c'est le diminutif de Sahel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ah, les choses vont être faciles. La négociation va être facile et on va accepter. Vous vous souvenez quand je vous ai raconté la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Elle avançait vers la Mecque. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ? Les compagnons ont dit, la chamelle s'est arrêtée, elle est fatiguée, ou elle est paresseuse, ou certains, enfin, certains leur ont dit, non. Al-Qaswa, c'est sa chamelle, elle s'appelle Al-Qaswa. N'est ni fatiguée, ni paresseuse. Elle s'est arrêtée pour la même raison que Abraha. L'éléphant d'Abraha s'est arrêté. Vous vous souvenez quand Abraha est venu détruire la Kaaba, à un moment donné, l'éléphant ne voulait plus avancer. Ils l'ont frappé, ils ne voulaient plus avancer. Par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chamelle s'est arrêtée à des frontières qu'Allah seul connaît. À un endroit, la chamelle ne veut plus avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ce qu'a arrêté la chamelle, la cause qui a arrêté la chamelle, c'est la même cause qu'a arrêté l'éléphant. Et Quraysh ne me demande aucune condition qui n'est pas illégale, haram, j'accepterai toutes leurs conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, dès qu'il a vu des signes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois négocier, tu dois pas. Parce que ça lui a rappelé l'armée de Abraha, n'est-ce pas ? Abraha, pourquoi il est venu ? Pour détruire la Kaaba. Allah a fait arrêter son éléphant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour détruire la Kaaba, il est venu pour faire la Umrah. Mais Allah lui a donné un signe, lui a dit tu ne rentres pas comme ça avec un tel nombre cette année. Il lui a donné un signe que tu dois accepter la négociation. Tu dois accepter la négociation. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu attaquer la Mecque. Mais ça aurait, il aurait peut-être gagné la guerre. Le Coran, il l'a dit. Il a dit, vous aurez pu gagner cette guerre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été toujours. D'ailleurs, Quraysh a envoyé 40 cavaliers pour provoquer les musulmans, pour les provoquer. Ils sont arrivés, ils ont commencé à provoquer les musulmans, et les musulmans, ils les ont attrapés, les 40. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ? Il ne les a pas gardés, il a dit renvoyez-les. Ils les ont libérés. Et ça, c'est un signe de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, vous ne sommes pas là pour faire la guerre. Vous envoyez vos jeunes à cheval pour nous provoquer, mais nous ne sommes pas venus pour faire la guerre. Et ils les ont tous libérés. Ils auraient pu les exécuter, ils auraient pu au moins les garder comme moyen d'échange, comme moyen de négociation. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout de suite, renvoyez-les. Alors, à Quraysh. Donc ça c'est un signe de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Suhayl ibn Amr. Je vous dis Suhayl ibn Amr, c'était un homme très très sage. L'un de ses fils est avec les musulmans. Son fils est musulman, il est dans l'armée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son deuxième fils, il s'appelle Abu Jandal. Il est enchaîné chez lui à la Mecque. Il est musulman et son père l'a empêché de quitter la Mecque. Il l'a enchaîné à la Mecque, il est enchaîné. Son frère est musulman, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui, il est enchaîné, vous allez voir son histoire aussi. Il est enchaîné à la Mecque. Et donc le père, Suhayl, est venu négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez son fils là-bas, musulman. D'accord ? Et donc, Suhayl, il avait une éloquence la facilité de parler. C'était un homme d'une grande sagesse et d'une grande éloquence. Il maniait la langue arabe d'une manière, quand il parle Souhayl, ben, tout le monde se tait. C'est pour ça que Quraysh l'a envoyé d'ailleurs. Il connaissait sa sagesse et ses moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il l'a laissé parler, ils ont négocié, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté les conditions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté même la première condition, c'est de ne pas faire la Umrah cette année. Et ça, ça a bouleversé les compagnons. Comment ça se fait? On est venu pour la Umrah. Tout le monde, Quraysh n'a jamais empêché quelqu'un de faire la Umrah. C'est la première fois dans son histoire d'empêcher des gens qui viennent faire la Umrah de leur dire « Revenez, vous ne faites pas la Umrah cette année. » Donc ça, c'était la première condition. Et le professeur Hassan m'a dit « Oui, ça me va. » Et ils leur ont dit « L'année prochaine, vous revenez, on vide la Mecque, on sort, les Mecquois sortent tous de la Mecque, à l'extérieur, on vous laisse la Mecque pour 3 jours. Vous faites votre Umrah et vous partez. » C'est comme si Quraysh ne voulait pas se mélanger avec les musulmans, parce qu'ils savent que les musulmans, quand ils se mélangent avec les gens, ben ils vont les toucher, ils vont laisser une trace, laisser les gens réfléchir, hein, lire le Coran. Quraysh ne veut pas de ça. Hein. Quraysh et toutes les... Hein, même aujourd'hui, hein, on voit un peu les mêmes... on ne veut pas que les musulmans se mélangent avec les autres, les musulmans, donc on veut les écarter un peu de la société. Donc, toutes les conditions, que on va aller voir les conditions ensemble, le prophète a accepté. Il a accepté, il a accepté, il a accepté. Toutes les conditions. Il a insisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur une seule condition. Une seule. Qui l'intéressait le plus. Pour lui, c'est ça, le fath. C'est ça, la conquête. C'est quoi? C'est que la guerre...
10 ans de paix.
10 ans de paix entre musulmans et Quraysh. Les musulmans ont le droit de circuler partout en Arabie. Quraysh ne sera jamais là pour les empêcher de le faire. Et les Quraychites ont le droit de faire leur commerce, de passer par Médine, les musulmans ne sont pas là pour les empêcher.
Et de prêcher.
Et de... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a accepté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attendait qu'à ça. Il voulait que ça. Il voulait que les musulmans aient la parole libre, la liberté, la paix. Et pourquoi? Parce que l'islam, c'est la religion de la raison. C'est la religion de la conviction. C'est la religion qui touche les cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait affaire à des Arabes qui connaissaient très bien la langue arabe. Donc vous savez que les Arabes, il suffit de leur lire une sourate, ils deviennent musulmans. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues musulmanes juste parce qu'on leur a lu une sourate. Tellement le Coran est fort, tellement le Coran était éloquent, beaucoup de personnes se sont converties à l'islam après avoir entendu un verset parfois. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait la paix. Et imaginez le nombre de musulmans. Le nombre de musulmans. Là, on a dit combien de compagnons sont venus à cette Umrah, combien?
1400.
La paix pendant 10 ans. En réalité, la paix n'a eu lieu que pendant
2 ans.
Pas 10 ans. Parce que normalement, ça a été signé pour 10 ans. Mais Quraysh a provoqué l'annulation de ce pacte au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans sont revenus.
10 000.
Hein? Combien de 10 000 combattants? Parce que les musulmans sont revenus pour prendre la Mecque cette fois-ci. Quand Quraysh a annulé le pacte, a provoqué l'annulation du pacte, en attaquant une tribu musulmane, ou qui avait une alliance avec les musulmans, qu'est-ce qui se passe? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de conquérir la Mecque. Puisque c'est comme ça, on a un pacte, vous avez annulé le pacte, allez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre une armée, et cette armée-là, 10 000 combattants, je ne parle pas de 10 000 musulmans, c'est-à-dire que le nombre de musulmans est devenu peut-être 20 000 ou plus. Pourquoi? Parce que la paix. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce moment-là, pendant 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait?
Da'wah.
Il a fait da'wah. Il a envoyé des gens partout en Arabie. Partout. Il a même envoyé des lettres au roi de l'époque. Vous vous souvenez comment le... Vous avez vu Risale, le film, le message, vous l'avez vu? Il faut le voir, ce film. Le message, il faut le voir, parce qu'il retrace très bien la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est très rapide, très... Mais il montre beaucoup, beaucoup de choses. Il faut le voir, ce film-là. Il est traduit, en plus. Il est sous-titré.
Donc, il y a en 2 versions. Il y a la version française, avec Anthony Quinn.
Avec la version anglaise et la version arabe. Moi, je vous conseille de voir...
Il y a les deux.
Je conseille de voir la version arabe qui est faite par des musulmans et sous-titrée. Elle est beaucoup mieux parce qu'elle est plus longue.
Ça parle en arabe.
C'est des musulmans qui le font, donc c'est un peu plus vrai. Un peu plus vrai, même si c'est que des acteurs tous, mais un peu...
Et pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, il y a le français avec Anthony Quinn.
Oui, c'est ça la deuxième version. Ouais. Mais elle est complètement en français celle-ci.
Ouais, elle est complètement en français. Ouais.
Mais ce film-là, il est... Ce film, il commence comment? Il commence... Non, c'est pas... Il commence par 4 personnes avec... à cheval, et chacun a une lettre, et il va voir le roi de la Bithynie, le roi des Coptes, le roi des Perses, et le roi... Un troisième, le Copte, les Perses, le Chem, la Syrie... L'Égypte, barakallahu fik, et donc il va voir les 4 rois en leur donnant les lettres. Quand est-ce que ça s'est passé? Ben pendant les 2 ans là. Pendant les 2 ans de paix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité pour envoyer des lettres partout dans le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'islam c'est une religion mondiale. Depuis le début, Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam c'est pas la religion des Arabes, l'islam c'est la religion de l'humanité. Et tu dois transmettre à l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aslim taslim yu'tika Allahu ajraka marratayn. Donc le contenu des lettres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait la paix. C'était ça, son objet principal. Et il a eu la paix. Et donc tout le reste pour lui c'était secondaire. Ce que les compagnons n'ont pas compris. Les compagnons n'ont pas compris ça. Ils ont dit à Rasulallah, tu nous as promis la Umra. Le prophète leur dit, je vous ai promis cette année. Allah m'a promis la Umra. Mais Allah ne m'a pas dit c'était cette année. Il m'a dit, il y aura la Umra. Donc l'année prochaine, on fera la Umra. D'accord? Et donc, mais ils n'ont pas compris ça. C'était. Et après, parmi les conditions, oui. Parmi les conditions, c'est que ça c'est dur, ça c'est très dur à accepter aussi. C'est que si un musulman, mais quoi, veut rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed à Médine doit obligatoirement l'enchaîner et le ramener à la Mecque. C'est-à-dire que les musulmans qui sont à la Mecque ne doivent pas quitter. Et si jamais, par malheur, l'un d'eux quitte la Mecque pour venir à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engage à le renvoyer. Ça, on va dire.
Même chef.
Oui.
Même le fils de.
Ah, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça, c'est une belle histoire. On va la raconter. Allah, frère. C'est ma. Oui.
Et aussi, quand les compagnons, là, ils étaient énervés. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire la.
Oui.
À la sauce, en scène, il est rentré. Il ne sait pas.
Exactement.
Ils ne veulent pas m'écouter, ils sont énervés. Sa femme, elle nous dit ben, toi, coupe-toi les cheveux, fais le sacrifice et
tu vas voir.
Faire tout ce qu'on doit.
Mais je vais te dire tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ça fait partie des choses importantes à signaler. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tout accepter. La condition, c'est que si un musulman quitte la Mecque pour venir à Médine, le prophète doit l'enchaîner et le ramener à la Mecque. Et le pire, regardez, ici, un musulman quitte l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit le laisser partir pour revenir à la Mecque. Vous voyez un peu le... Hein? C'est-à-dire que les deux, si un Mecquois quitte, devient musulman, et qui veut rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète doit le ramener. doit le renvoyer à la Mecque. Et si un musulman quitte l'islam et qu'il veut revenir à Quraysh, le prophète Hassan doit lui préparer le chemin, il lui met le tapis rouge pour qu'il revienne Vous trouvez ça juste?
Non.
Au moins, si c'était des deux côtés, ça aurait. Les compagnons ne l'ont pas compris. Mais je vais vous expliquer pourquoi le prophète Hassan m'a accepté cette condition. En réalité, si un musulman quitte l'islam, pourquoi le garder? Le prophète Hassan, en réalité, il n'y avait aucun musulman qui a quitté l'islam. C'est pour ça que le prophète Hassan m'a accepté cette condition. Parce qu'il sait, que les musulmans, quand quelqu'un devient musulman, est-ce qu'il quitte l'islam? Jamais. Jamais un musulman a quitté la religion musulmane, sauf cas très très exceptionnels. C'est pour ça que le professeur Hassan, il a considéré cette condition, même si c'est écrit comme ça et tu dis c'est injuste, mais elle n'est pas praticable. Sur le terrain, ça n'existe pas. C'est de la théorie. La pratique, ça n'existe pas, un musulman qui quitte l'islam pour rejoindre les Mécois. Ça n'existe pas. D'accord? Mais côté Mécois, il y a beaucoup de musulmans qui sont devenus musulmans et qui veulent quitter pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète a accepté de les renvoyer. Mais vous allez voir que ça va être, c'est Quraysh par la suite qui va demander l'annulation de cette condition-là. On va la raconter, charmant. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a accepté toutes ces conditions. Maintenant, il reste à écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, il faut écrire sur un papier. Ce n'était pas un papier, c'était la peau d'une chèvre ou quelque chose comme ça. Il juste sur les... Il faut savoir qu'à l'époque, les moyens de l'écriture étaient très 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 limités. Même le Coran al-Karim, quand on écrivait le Coran al-Karim, on écrivait sur la peau de chèvre, sur les os des animaux. C'est là où on écrivait le Coran al-Karim. On n'avait pas les papiers à l'époque. Il n'y avait pas de culture de papier et tout ça. Ça n'existait pas. Donc ils ont pris quelque chose et c'est Ali qui devait écrire. Ali savait lire et écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a décrit dans le Coran qu'il ne savait ni lire ni écrire. Jusqu'à sa mort. Même s'il est l'homme le plus savant au monde, à qui Allah a donné le savoir le plus noble, le plus grand, il ne savait ni lire ni écrire. Et ça, c'est un miracle, en soi. C'est en soi un miracle, parce que Allah lui a donné la science de sa part. C'est l'wahi, c'est la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apprend pas. Il ne va pas apprendre pour nous, on doit apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'apprentissage, Iqra bismi rabbi, lis au nom de ton Seigneur. Ma ana biqari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne sais pas lire. Et Jibril lui dit, lis, mais je ne sais pas lire. Lis, mais je ne sais pas lire. Et il le prend, il le serre. Et Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Même si tu ne sais pas lire, tu pourras par la suite lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tous ces livres de science et de savoir sont tirés de quoi? De la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré que lui-même ne savait ni lire ni écrire sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le miracle. Ça aussi, ça fait partie du miracle. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait lire et écrire avant de devenir prophète ou même en devenant prophète, qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Il a appris.
Ah, il a appris. Il a inventé. C'était déjà un poète qui connaissait très très bien les choses. Donc il a appris, a fait beaucoup de choses et maintenant il s'est dit pourquoi j'invente pas une religion? Il a inventé la religion musulmane. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un berger, puis un commerçant. Et puis rien du tout jusqu'à la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali. Ya Ali, viens écrire. Et Omar al-Khattab il croyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait changer d'avis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on va écrire. Allez, bismillah, on va écrire tout ça, mettre ça noir sur blanc et le signer. Je m'engage, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Suhail ibn Amr, le représentant de Quraysh, on s'engage, on va écrire. Et là, Omar al-Khattab, il n'a pas supporté. il va voir Abu Bakr. Ya Abu Bakr, alasna 'ala al-haqq wa hum 'ala al-batil? Nous avons la, nous sommes sur la vérité, sur le chemin de la vérité, n'est-ce pas? Il m'a dit oui. Ils sont sur le chemin de la, du mensonge, c'est des kuffar, c'est des négateurs. Oui. Alama nu'ti al-baniyata fi dinina. Il dit pourquoi on s'humilie devant eux alors qu'on est fort et qu'on peut faire, qu'on peut malgré eux faire la Omra. Il faut les forcer. Omar dit ya Omar. Abu Bakr dit ya Omar. Ya Omar. Il ne contredit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Omar dit non, non. Non, ça n'accepterait jamais. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ya Rasulallah. Nous sommes sur la vérité et eux, ils sont sur le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, oui. Ça, c'est, il n'y a pas de doute. Pourquoi on s'humilie devant eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Omar, hein, je reçois l'ordre d'Allah. Je reçois l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'agis selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc, Prophète Hassan dit Ana Abdullah wa Rasul. Walan ukhalif amrahu walan yudayyani. Je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et je ne contredis pas l'ordre d'Allah. Et Allah ne m'abandonnera pas. Voilà les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar al-Khattab. Il a dit par la suite, quand tout ça s'est terminé, il a dit, je n'ai jamais regretté quelque chose dans ma vie que les paroles que j'ai prononcées devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aurais aimé ne pas être musulman jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire que, hein, et je continue à faire des istighfars tout le temps, juste à cause de cette parole que j'ai adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant énervé. Il considérait comme une injustice. Omar n'aime pas l'injustice. Omar, c'est comme Moussa alayhi salam. Si vous voulez comparer les compagnons au prophète, Omar, comparez-le à Moussa alayhi salam. Abu Bakr, comparez-le à Haroun, le frère. Donc vous avez deux mentalités différentes. Omar n'accepte pas l'injustice. D'accord? Et pour lui, ça, c'est une injustice. Pourquoi Quraysh accepte tout le monde? Depuis des siècles, jamais Quraysh n'a empêché quelqu'un de faire la Omra. Pourquoi il nous empêche, nous, de faire la Omra? Il a considéré ça comme une humiliation devant eux. Qu'on accepte de revenir carrément à la Mecque, alors qu'ils sont à Médine, alors qu'ils sont à 10 km de la Mecque. Et en plus de ça, des conditions de... injustes. Omar n'a pas accepté ça. Donc c'était l'homme juste. Omar n'a pas accepté parce que c'est la justice qui l'anime. Et malgré tout, les paroles qu'il a prononcées devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour lui l'erreur de sa vie.
C'est l'injustice qu'il a fait par lui.
C'est l'injustice, exactement. Mais il a quand même regretté. Il a dit, jusqu'à que je rencontre Allah, peut-être la chose qui va me blâmer, quelque chose qui va... Je crains pour moi-même, pour ma personne, c'est le fait de m'avoir levé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prononcer ses paroles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali, radiallahu anhu, Suhail ibn Amr en face, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons autour. Ils n'étaient pas tous là, que quelques-uns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, Oktoub, et Ali écrit. هذا يدي بسم الله الرحمن الرحيم اكري بسم الله الرحمن الرحيم سهيل ابن عمرو يدي نو نكري باس اون كوني با الرحمن الرحيم نو اون كوني باسمك اللهم لزعاب كونيسي الله مي كونيسي با الرحمن الرحيم كونيسي با لي نون د الله دونك il a dit moi je ne veux pas que tu écris بسم الله الرحمن الرحيم moi c'est pas dans mes habitudes d'écrire ça. Écrit Bismik Allahum comme les Arabes, comme les autres, comme on criait avant. Chaque lettre, chaque livre, on commence par Bismik Allahum. Et Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, écris bismik Allahum. N'écris pas bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça aussi, c'est des concessions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il aurait pu lui dire, non, non, ar-Rahman ar-Rahim, c'est les noms d'Allah, comment je peux? Non, il a dit, enlève Ya'ad, écris bismik Allahum. Il y a une histoire qui dit, c'est pas sûr, que Ali ibn Abi Talib a refusé d'effacer ar-Rahman ar-Rahim. Pareil, exactement. Ça va venir. Donc, Ali dit à Rasulallah, j'arrive pas à effacer. Je n'arrive pas à effacer Rahman Rahim. Mon cœur ne me donne pas la possibilité d'effacer. Ya Rasulallah, je n'arrive pas. Et le professeur Hassan lui dit, montre-moi où c'est. C'est écrit au Ar-Rahman Rahim. Je vous ai dit que le professeur Hassan ne savait pas lire écrit. Ali lui dit, c'est ici. Qu'est-ce que le professeur Hassan il fait? Il prend sa salive et il efface avec sa propre salive. Il dit, écris Bismikallahum. Ça, tu t'arrêtes là. Enlève Rahman Rahim. Rajoute juste une mime. Ali a écrit Bismillahi. Et il lui a dit, rajoute Bismikallahum. Enlève Rahman Rahim. Ça, c'est l'art de négocier. Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ali, écris. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. Ceci est l'engagement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris avec Suhayl ibn Amr. Et Suhayl ibn Amr dit, arrête, n'écris rien. Qui me dicte Rasulullah? Moi je ne crois pas en toi contre Rasulullah. Écris Mohammed ibn Abdillah. N'écris pas Muhammad Rasulullah. Il lui a dit, si je croyais que tu étais le prophète Muhammad Rasulullah, je ne serais même pas là en train de négocier avec toi. Vous voyez un peu le... Il lui a dit, non, n'écris pas Muhammad Rasulullah. Écris Muhammad ibn Abdullah, comme les Arabes. Avant, on écrit l'homme, le nom de la personne, avec le nom de son père. Point à la ligne. Ali a déjà écrit Rasulullah. Le prophète lui dit, montre-moi où c'est. Ali ne voulait pas effacer Rasulullah. Pour lui, ça lui pesait lourd d'effacer le nom du prophète. Il a dit, montre-moi où c'est. Ça, c'est dans une version de l'histoire. Le prophète, il supprime lui-même, il efface avec sa salive Rasulullah. Il écrit Muhammad ibn Abdillah. Et après, les conditions. La première condition, c'est les musulmans rentrent à la Mecque. À Médine cette année, ils ne font pas la Omra. Ils reviendront l'année prochaine. Les Mécois vident la Mecque pendant 3 jours et les musulmans peuvent faire leur Omra et au bout de 3 jours, ils doivent quitter. Ça, c'est la première condition. Que 3 jours. Alors que les gens, quand ils venaient faire la Omra, c'est rester un mois. Donc, la première condition. Al-Harb, la deuxième condition. Aucune guerre ne sera déclarée entre les musulmans et les Qurayshites pendant 10 ans. Après, Chaque tribu arabe peut avoir alliance avec les musulmans ou les Qurayshites. D'accord? Chaque tribu, parce que vous avez la Mecque et Médine, mais autour de la Mecque, vous avez plusieurs tribus. D'accord? Et autour de Médine, vous avez plusieurs tribus. Donc, si une tribu, que ce soit ici ou ici, veut être alliée aux musulmans, elle peut l'être. Si elle veut être alliée aux Qurayshites, elle peut l'être. Et si elle est alliée aux Qurayshites, les musulmans n'ont pas le droit de s'attaquer à cette tribu. D'accord? Ça c'est. Souvenez-vous de cette condition. Quand je vais vous parler de Fath Makka, on va s'en souvenir de cette condition. Donc, les tribus se sont alliées soit aux musulmans, soit aux Mécois. Et quand il y a une tribu qui s'allie aux Mécois, les musulmans ne peuvent pas les attaquer. Et quand une tribu s'allie aux musulmans, les Mécois ne peuvent pas. C'est comme s'ils faisaient partie des musulmans ou des Mécois. Donc la paix va être installée entre les Mécois et les musulmans, et aussi les tribus qui se sont alliées aux musulmans ou aux Mécois. Gardez bien ça en tête, d'accord? Non?
Les musulmans, ils ont tous
Ah oui, exactement. Ça, on va le dire. On va le dire, ça c'est le fils de... On va le dire. Donc, يأمن فيها. Donc c'est quoi ? La harb alpha s'arrêter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si un musulman, si un Mécois se convertit à l'islam et qu'il veut rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le prophète doit le renvoyer à Médine. Et si un musulman quitte l'islam et qu'il veut rejoindre les Mécois, le prophète doit lui autoriser. Il ne doit pas l'empêcher de le faire. Ça aussi, c'était une condition. D'accord ? Et l'année prochaine, on ouvrira la Mecque pour 3 jours. Et là, ils ont signé. Le prophète a signé. Et Souhayl ibn Amr, en tant que représentant, il y avait quelques Mécois avec lui qui ont assisté. D'accord ? C'est bon, c'est fini. Et là, imaginez ce qui se passe. Je vous ai dit que Souhayl ibn Amr avait son fils enchaîné à la Mecque. Il s'appelle Abu Jandal, son fils. Abu Jandal. Qu'est-ce qui se passe ? Abu Jandal, pendant que son père est parti négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé l'occasion. Il a réussi à s'échapper. Et il savait que les musulmans étaient juste à côté à Al-Hudaybiyah. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a rejoint les musulmans. Il a rejoint les musulmans. Et quand le prophète a écrit le livre et s'est signé, voilà Abu Jandal qui arrive.
Il a renvoyé.
Ah là là, subhanallah. Pense à un milieu d'air. Tu aurais pu arriver 5 minutes avant. Il arrive juste au moment. Et son père le voit. Souhayl ibn Amr, il voit son fils. Il se lève. Il vient le voir. Il lui donne des coups sur le visage, sur le ventre. Et les musulmans, ça les a tellement touchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Souhayl, arrête, arrête. Il a dit, ah, c'est signé. Hein. Il a dit, on vient de signer là. C'est fini. Hein. Tu t'es engagé. Et les musulmans donc, étaient déjà dans un état d'humiliation, d'émotion, touchés par déjà les conditions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jandal dit au prophète, il dit aux musulmans, il crie, oh musulmans, comment je me suis échappé, j'ai fait tous les efforts pour que je puisse être avec vous. Et comment vous avez le cœur à me laisser partir, revenir. Ça, oui.
Il s'est détaché lui-même ou il s'est fait aider par quelqu'un?
Allahu a'lam. L'histoire ne le dit pas, mais à mon avis, puisque son père n'était pas là, peut-être il y a quelqu'un qui a réussi à le...
Sinon, si on peut dire qu'il s'est détaché lui-même, ça veut dire qu'il était fort physiquement.
Oui, vous allez voir. Sa force, vous allez la voir après. Je vous ai raconté juste la moitié de l'histoire. Hein. C'est soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Parce que c'est, je vous laisse un peu le suspense pour que vous reveniez le lundi prochain. Donc, les musulmans étaient en train de pleurer. Lui, il pleurait. Il disait aux gens, comment vous pouvez me laisser alors que j'ai tout fait pour vous rejoindre ? Ya Rasulallah, il me dit, ne t'inquiète pas, Ya Abu Jandal, on a signé, on s'est engagé. Je ne peux pas revenir sur ma décision, mais Allah te donnera une solution. Allah te donnera une solution. Allah te donnera une solution. Il lui a donné la promesse qu'Allah lui donnera une solution. Donc il est parti un peu le cœur apaisé avec son père, il l'a ramené avec lui à la Mecque, il l'a enchaîné encore une autre fois pour... Et donc, et il aura une très très belle histoire par la suite. On voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, très bien. Donc, les gens étaient tellement touchés, déjà touchés par la signature en elle-même, et touchés par cet homme-là qui vient jusqu'à chez eux. Et qu'on est obligé de renvoyer parce qu'on vient de s'engager. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam respecte ses engagements. Ça nous montre quelque chose de très important, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trahit pas ses engagements. Malgré que là, il aurait pu dire à Souhayl, tu fais une exception de ça. On n'a pas encore... n'es pas encore parti, tu... Mais là, non, il sait que c'est bon, il a signé. Mais si, le, si l'homme était arrivé peut-être juste avant les négociations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu négocier l'exception. Mais là, là c'est bon, c'est signé. Et il, est, il l'a renvoyé sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que ça lui pesait plus lourd que, c'est, que pour les compagnons. Mais il était touché plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un musulman.
C'est une épreuve, papa.
C'est une épreuve. Mais il l'a accepté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il décide, le prophète a eu quelque chose qu'il voulait, c'est que la guerre s'arrête. Et qu'il peut, là maintenant, envoyer ses compagnons partout dans le monde pour appeler les gens à l'islam. Et c'est ça qui l'intéressait. Et vous allez voir qu'il va gagner énormément à travers ça. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant que c'est signé, maintenant que Abu Jandal est tiré par les cheveux par son père pour le ramener à la Mecque, sous le regard de tous les musulmans en train de regarder sans pouvoir rien faire, à cause de ce pacte-là, qui est considéré comme une humiliation, et qui sera ce pacte-là, décrit par la suite, quelques jours après, Allah révèle la plus belle sourate qui parle de ce pacte et il l'appelle Suratu Al-Fath. Suratu Al-Fath, la sourate de la victoire. Ce que vous considérez vous comme, une, comme un échec, comme, comme une humilité, pour vous c'est la plus grande victoire que vous avez obtenue à travers cette, cette, cet événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là il sait, il a signé, il ne va pas rentrer à la Mecque. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il doit retourner à Médine. Il ne peut pas retourner sans se désacraliser. Là, il est en état de sacralité. C'est-à-dire, quand tu arrives à la Mecque, tu arrives en état de sacralité. Tu n'as que les tissus blancs sur toi. Tu ne peux pas te couper les ongles. Tu ne peux pas mettre du parfum. Tu... D'accord ? On est en état de sacralité. Aujourd'hui, c'est très facile pour nous d'être en état de sacralité parce que tu vas à Marbian. Hein, tu arrives. Tu te mets en état de sacralité soit dans l'avion, soit quand tu arrives de Médine à Dhul-Huleyfa, mais tout de suite après, 4 heures après, tu es à la Mecque, tu fais ta Umra, la Umra dure 4 heures, et après, tu peux te désacraliser. La Umra, c'est très facile. Mais ici, maintenant, ça devient très facile. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont fait la sacralité où ? À Dhul-Huleyfa, juste à côté de Médine. Donc, ils sont en état de sacralité depuis des jours et des jours. Peut-être même un mois. Parce que toute la négociation qui a duré. Donc, ils sont restés en état de sacralité. Et quand les musulmans sont arrivés à la Al-Hudaybiya, à cet endroit-là, il y avait des puits, mais les puits étaient vides, secs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une flèche, je vous ai raconté ça la dernière fois. Il donne une flèche à l'un de ses compagnons, on a même le nom de ce compagnon, il lui a dit ah, plante cette flèche dans l'un des puits de Hudaybiya et tu as. Quand il a planté la flèche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau commence à jaillir. Et toute l'armée, 1400 personnes, ont bu de cette eau-là, alors qu'auparavant, il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Et ça, c'est un miracle. Ou c'est un prodige de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il doit se désacraliser. Comment on se désacralise ?
On coupe les cheveux.
On se coupe les cheveux. Quand tu te coupes les cheveux, tu te désacralises. Quand vous faites une umrah, vous allez à l'umrah. Vous allez faire votre umrah. Et quand vous avez fini l'umrah, vous avez fait le tawaf, vous avez fait le sa'i, d'accord ? Vous avez fini la Umrah, vous dirigez directement vers les coiffeurs, ou toi-même, pour te couper les cheveux. Et quand tu te coupes les cheveux, ça y est, tu as fini ta Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas faire la Umrah. Il doit se désacraliser. Ben, il se désacralise en se coupant les cheveux. Et en sacrifiant les bêtes, parce que les bêtes, les chameaux, 70 chameaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenés avec lui, il les a amenés pour les sacrifier. Donc son intention, c'est de les sacrifier. Ben, il doit les sacrifier. Il ne peut pas les ramener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il dit à ce compagnon, c'est bon, on a signé, on ne peut pas faire la omra, désacralisez-vous, coupez vos cheveux et sacrifiez vos bêtes. Il donne l'ordre. Imaginez la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ordre. Tous les compagnons étaient assis, pensifs, ému, et personne n'a voulu faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Personne. Le prophète donne un ordre. D'habitude, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce juste quelque chose, une parole, ben les gens ils commencent à se battre pour réaliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Là, le prophète donne un ordre clair. Coupez vos cheveux, sacrifiez vos bêtes. Et regarde les gens. Personne ne se lève. Personne ne se lève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné. Il donne un ordre. C'est les mêmes compagnons que hier, ils étaient en train de tout faire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, personne n'exécute l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa tête, il rentre dans sa tente. Et dans sa tente, il y avait Umm Salama, sa femme, la sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Halak al-Nas. Les gens sont en lien. Les gens sont perdus. C'est-à-dire que ils n'obéissent pas à leur prophète, ben, ils sont perdus. C'est-à-dire que c'est la catastrophe. Ils ont tout perdu. Ils vont tout perdre. Alors qu'ils viennent de... Il vient de donner acte d'allégeance pour mourir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande juste de faire quelque chose, ils ne le font pas. Donc, il dit Halak al-Nas, Halak al-Nas. Il était triste. Et là, sa femme vient le voir. Ya Rasulallah. Elle a tout su, elle. Elle a tout vu. Elle a assisté à tout ce qui s'est passé. Elle comprend, elle a compris pourquoi les compagnons. Ce n'était pas de la désobéissance. C'était complètement ailleurs. Ya Rasulallah, il ne faut pas leur en vouloir. Ya Rasulallah lui dit, il ne faut pas leur en vouloir. Ya Rasulallah, tu sais ce qui s'est passé là, devant eux. Moi je te conseille quelque chose.
Hein?
Choqué, c'est pas...
Choqué.
Sors, toi, sors à l'extérieur. Appelle ton coiffeur qu'il te coupe les cheveux. Commence à sacrifier toi-même tes chameaux et tu vas voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce que sa femme lui a dit. Hein? Même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était étonné de l'agissement, des agissements des compagnons. Mais quand sa femme, la sage, Umm Salama, elle était d'une grande sagesse, fait l'exemplarité à Rasulallah. Fais et tu vas voir. Ils s'attendent parce qu'ils ont encore un peu d'espoir. Ils se sont dit, mais pourquoi? Peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam va changer d'avis. Peut-être. Mais si le prophète se coupe les cheveux, là, ils ont compris que... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu, il a exécuté le conseil de sa femme. Ça, c'est quelque chose de très important. Sa femme, pour lui, elle avait de la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération son conseil. Donc il sort. Il ne demande rien à personne. Il ne donne pas d'ordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son coiffeur. Il dit, tiens, coupe-moi les cheveux. Et il commence à se couper les cheveux. Et tout le monde commence à se couper les cheveux. Tout le monde. Ça y est, ils ont compris qu'il n'y a pas trop de tour. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe pour sacrifier sa chamelle. Et tout le monde sacrifie leurs chameaux ou leurs bêtes qu'ils ont amenées pour le sacrifice. Et Allah a sauvé tout le monde grâce à qui? À Umm Salama, cette femme sage qui a donné, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, ben, allez, vous êtes désobéissant au prophète, faire une invocation contre eux ou quoi que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il a écouté sa femme. Alhamdulillah, Allah l'a sauvé et a sauvé tous les musulmans. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a parlé à personne. Il a fait l'exemplarité. Il a exécuté. Et ils ont tous fait la même chose. Donc, les musulmans, donc, croyez pas à ce gain. Zuhri, il ne connaissait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un stratège. C'était un prophète d'abord, soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah lui donne le bon choix. Allah l'a guidé. Parce que ce pacte-là, cette paix-là, va permettre aux musulmans de devenir par la suite, en 2 ans, je vous ai dit. Ça s'est passé en quelle année, là, le Sulh al-Hudaybiyya? Quelle année? Sixième année de l'Hégire. Hein? Sixième année de l'Hégire. Fath Makkah aura lieu quand? Huitième année de l'Hégire. 2 ans après. 2 ans après, les musulmans vont venir conquérir la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer à la Mecque à la tête de 10 000 personnes. 10 000 soldats. Vous imaginez le changement. Ici, c'est la vraie victoire. La vraie victoire, ce n'est pas de gagner la terre, mais de gagner les cœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a gagné les cœurs des Arabes. Allah a guidé les gens à travers son comportement, sa parole. Mais donc, il n'a rien perdu. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait Allah révèle après Sourate Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher avec Abu Bakr Siddiq et les autres compagnons. D'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche avec qui? Abu Bakr et Omar. Ils étaient à gauche et à droite, tout le temps. Omar, il s'est éclipsé complètement. Pourquoi? Il avait honte de lui-même de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar, d'habitude, il marche juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci, il était là-bas, carrément derrière. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le prophète le voie. Il ne voulait pas, il est tellement honte de lui-même de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète, à un moment donné, il marchait et les gens le regardaient en train de recevoir la révélation. Quand il recevait la révélation, même sa chamelle ne pouvait pas rester debout. Tellement c'est fou. C'est lourd la révélation, le Coran al-Karim. Et qu'est-ce que Allah lui a révélé? Surat Inna fatahna laka fathan mubina. Fath Makkah n'est pas encore, et c'est dans 2 ans. Hein. Mais Allah dit à son prophète, tu as un fathan mubina à travers ce pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu cette révélation, il revient à lui-même, il dit, il est où Omar? Il est où Omar? Il cherche Omar. Omar, il était carrément à l'autre bout. Ils ont appelé Omar, il dit, viens, il y a Omar, écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite ses versets à Omar al-Khattab, radiyallahu. Et tout le monde comprend que ça, Allah dit que c'est un fatih. Et donc, lisez toute cette sourate, elle est magnifique. Et à chaque fois qu'on vous passez par un verset dans cette sourate, ben il fait appel à un événement que je vous ai raconté. D'accord? Ce qui se passe par la suite, c'est que il y avait un musulman qui s'appelait Abu Basir. Les musulmans maintenant sont arrivés à Médine, se sont installés, et quelques jours après, Abu Basir, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui habitait la Mecque. Il a réussi à s'échapper de la Mecque. Il vient rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'installe à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit rien. Il lui dit rien. Il attend. Quraysh envoie deux hommes. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammad, ah, qu'est-ce qu'on a signé? C'est que si un musulman quitte la Mecque, qui vient chez toi, tu dois renvoyer. Donc, on attend que tu nous renvoies cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Abu Basir. Il dit, j'avais rien dit. Je croyais qu'ils ne vont rien dire. Mais là, tu dois partir avec eux. Ils l'ont enchaîné. Ils l'ont enchaîné et ils l'ont amené avec eux. Ah, les musulmans, ça les a touchés. Et Abu Basir, ce n'était pas n'importe qui. Sur le chemin, alaykoum salam. Donc il y avait deux personnes. Sur le chemin, il était enchaîné. Il parlait avec l'une des deux personnes, lui a dit, ton épée, c'est un épée vraiment de belle qualité. Hein. Il lui a dit, tu crois, oui, j'ai acheté à tel endroit. Donc il commence à discuter avec lui, avec la personne, et après, il lui a dit, je peux la voir, je peux la toucher. Il lui a dit, bien sûr, tu peux la toucher. Il prend, tac, et lui coupe la tête. Il le tue. Abu Basir tue le... Et il court, donc il a réussi à se détacher, il court derrière l'autre pour le tuer, et là l'autre il s'échappe, et on va laisser la suite pour la prochaine, pour lundi, inshallah, bismillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا لندي بروشان إن شاء الله بسم الله تكن أنا invité.